Chapitre 14. Il était 7 heures du soir lorsque Maurice arriva rue Gay-Lussac. L'ascenseur étant trop long à se mettre en marche, il prit l'escalier où une très légère odeur de cuisine était perceptible. En pénétrant chez sa mère, il eut la satisfaction de constater que cette odeur ne venait pas de son appartement. La bonne avait reçu l'ordre de le conduire tout de suite dans le cabinet de Raoul Béquillard. Ce dernier était assis derrière son bureau. Il fit signe à Maurice de s'asseoir, puis, après avoir rangé quelques papiers, « Alors, vous avez été à Fontbonne ?»« Oui, mais je suis tombé au milieu d'une réception. »« Votre père recevait quelques amis, sans doute ?»« Oui. » »« Il s'agissait donc plutôt d'une petite soirée. » Il parlait depuis un quart d'heure lorsque Juliette entra dans la pièce. « Ton fils est tombé au milieu d'une réception, » lui annonça Raoul Béquillard. « Le pauvre garçon !» dit-elle avec ironie en feignant de le plaindre. Puis elle chercha à changer la conversation. Elle dut s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'y parvenir. Elle se fût donné plus de mal encore si cela avait été nécessaire, car rien ne lui était plus désagréable au moment où elle se proposait d'interroger son fils que d'entrer dans une conversation commencée sans elle. Ce ne fut qu'après le dîner, lorsqu'elle se trouva seule avec Maurice, qu'elle en vint au sujet qui lui tenait à cœur. Le mot « réception » l'avait frappée. Aussi exigea-t-elle que Maurice parlât d'abord des invités de Digoin. Il le fit sur un tel ton qu'on eût dit qu'il avait été réellement contrarié par leur présence, de façon à justifier par avance son départ. Quand Juliette apprit qu'il n'avait pas voulu rester chez son père, malgré les attentions qu'on lui avait témoignées, elle fut un instant stupéfaite. Déjà, pendant que Maurice avait parlé, elle avait éprouvé ce malaise qui nous envahit lorsque nous cherchons, dans les paroles auxquelles celui qui les dit n'attache pas la même importance que nous, ce qui nous est favorable ou défavorable. Elle ne se mit pourtant pas en colère. Le lendemain, elle prit la décision d'écrire à son ancien mari. Elle s'assit devant son secrétaire. Elle aimait à en ouvrir le devant, à le laisser baisser, couvert de papier. Cela avait quelque chose d'intime, de personnel. On devinait que tout ce qui s'offrait ainsi à la vue avait sa place à l'intérieur du meuble. Quand Juliette avait une lettre à écrire, elle choisissait d'abord le ton. D'ordinaire, c'était celui d'une personne qui n'a pas de temps à perdre, allant droit à l'essentiel. Elle le jugea trop sec pour Charles. Elle lui écrivit une lettre vague et amicale. Maurice était devenu un homme, comme Charles avait pu s'en apercevoir. Il était rentré enthousiasmé de son voyage à Fontbonne, de l'accueil qu'on lui avait fait. Juliette était heureuse de constater que son ancien mari n'avait pas oublié son fils. Cette lettre terminée, elle la déchira. En la relisant avec les yeux de Madame Digoin, en y cherchant l'idée que cette dernière pouvait se faire de celle qu'il avait écrite, Madame Béquillard avait été déçue. Évidemment, la difficulté était grande de concilier le désir de montrer qu'elle était supérieure à Charles et celui de ne rien dire sur celui-ci qui put blesser sa nouvelle femme. À la fin, elle se décida pour une lettre plus mordante. Elle laissa entendre que maintenant que Charles était devenu un homme comme les autres, il était plus facile de lui parler avec franchise. Eh bien, il fallait qu'il sût que Maurice ne s'était jamais entendu avec son beau-père, maître Raoul Béquillard. Il était parti, elle n'avait pu l'en empêcher. Aujourd'hui, au moment où l'avenir du jeune homme devait être considéré sérieusement, elle estimait que Digoin devait intervenir. Elle lui conseillait de ne rien faire sans prendre l'avis de sa femme. C'était naturel. Elle-même n'avait pris la liberté de lui écrire qu'après avoir consulté son mari. Elle montra cette lettre à maître Béquillard. Il la parcourut, l'œil fixe, sans que ses pupilles allassent évincent. Lorsqu'il arriva au passage où il était question de lui, il hocha la tête en signe de désapprobation. « Ce n'était pas nécessaire de parler de moi, » dit-il en rendant la lettre. L'amour qu'il avait eu pour sa femme n'était plus qu'une habitude. Les seules satisfactions que les époux trouvaient ensemble étaient celles de l'amour-propre. Une semaine s'était écoulée depuis la visite de Maurice lorsque Digoin reçut cette lettre. Les lettres désagréables ont quelque chose de particulier. Le timbre lui-même ne ressemble pas à ceux des autres lettres. Il paraît mieux collé, comme si on l'avait frappé du poing. Sans être graphologue, on découvre dans l'écriture des signes peu sympathiques. Le premier mot, « monsieur » ou « madame » ou même « mademoiselle », n'a été écrit que par formalité. Charles monta dans sa chambre. Il n'avait rien à craindre de personne et pourtant des gouttes de sueur brillaient dans l'espèce de rigole qui part de la cloison nasale pour aboutir au milieu de la lèvre supérieure. Que lui voulait-on brusquement ? Il déchira l'enveloppe, lut les quatre pages de Juliette. Malgré son désir de plaire, elle n'avait pas changé. C'était encore de la conduite de son ex-mari qu'il était question. Il ne répondit pas à cette lettre. Qu'eût-il répondu d'ailleurs, puisqu'il ne pouvait ni accepter ni refuser ce qu'on lui demandait. Sa situation vis-à-vis de Maurice était beaucoup moins simple que Juliette ne se figurait. Il avait aimé cet enfant, mais il y avait plus de 20 ans qu'il en était séparé par la seule volonté de la mère. Il se souvenait de la lettre presque injurieuse qu'elle lui avait écrite pour refuser de lui confier Maurice pendant les vacances. Un enfant si pur, il ne fallait pas le contaminer. Quel exemple pour lui que les vices de son père! Et aujourd'hui, Juliette faisait de belles phrases, parlait d'autorité paternelle. Il ne montra pas cette lettre à Simone. Il avait remarqué qu'elle faisait une distinction entre les ennuis. Il y avait ceux qui lui étaient personnels, c'est-à-dire ceux venant de sa famille, de celle de son premier mari, de ses amis, enfin de tout son passé, et ceux venant de Charles Digoin. Or, devant ces derniers, quelque insignifiants qu'ils fussent, elle était comme accablée.